Danger de la beauté par René Pujol. Monsieur de Graft avait convoqué Thomas Burns dans le hall du Grand Hôtel. Le richissime Hollandais avait eu déjà recours au détective pour se débarrasser d'un maître chanteur. L'affaire lui avait coûté cher, car l'agence Burns ne travaillait jamais à bon marché. Mais tout s'était dénoué sans scandale et Monsieur de Graft en conservait une vive reconnaissance aux policiers privés. M. de Graft côtoyait la cinquantaine de cyprès qu'il l'avait peut-être abordé. Malgré sa calvitie et son double menton, il gardait maintes illusions sur son pouvoir de séduction. Il était seulement très soigné, alors qu'il se croyait d'une élégance irrésistible. Lui, si fort devant les plus célèbres financiers de Wall Street et de la Cité, devenait incroyablement faible devant une jolie femme. Thomas Burns détestait le whisky, mais M. de Graft, lui en ayant fait apporter un, il le buvait à petites gorgées pénibles. Jamais verre ne lui avait paru si grand. « Connaissez-vous Sonia Balonska ?» demanda le gros Hollandais en guise de préambule. « Non, » avoua Thomas Burns. « Je le regrette pour vous, c'est une femme délicieuse, d'une intelligence magnifique, la reine de Paris, mon cher. »«
Sans être parisienne ?»
dit le détective.
« Elle est de vieille noblesse polonaise.
C'est elle que vous allez sauver. »
« Prenez d'abord ce chèque. »«
Oh, rien ne presse. » murmura Thomas Burns en empochant prestement le rectangle de papier sur lequel son œil aigu avait vu 4 zéros s'alignant correctement derrière le chiffre 1.
« C'est la moindre des choses. » repartit M. de Graft. Et il exposa les faits.
« Sonia. »
« Je l'appelle Sonia car je bénéficie de son amitié. »
« En tout bien tout honneur. »
Sonia possède une fortune suffisante pour promener sa neurasthénie romanesque au Caire, à Venise, à Deauville, à Miami, partout. Une créature de cette valeur ne passe inaperçue nulle part. Non seulement elle est splendide, surtout en robe du soir, mais elle a une rivière de diamants digne d'une mare année. Or, elle a reçu hier soir ce pneu qu'elle m'a transmis.
Thomas Burns ajusta ses lunettes et lut ces quelques phrases dactylographiées.
« Madame, j'ai besoin de vos brillants pour subventionner une œuvre charitable. Il faut donc que vous me les donniez. Si vous refusez, vous serez assassiné le 27 à minuit. Je vous téléphonerai ce jour-là vers 6h30. Je vous conseille d'accepter. Mes respectueux hommages, Terror. »
Que pensez-vous de cela ? Dit anxieusement M. de Graft.
Je pense que c'est sérieux, dit Thomas Burns. Le 27, c'est demain.
Cette vérité chronologique ne surprit pas Monsieur de Graft.
« Je le sais, » dit-il. « Sonia habite 15 rue de Courcelles. Jurez-moi qu'elle ne sera pas assassinée à minuit. Je le jure, »
dit Thomas Burns.
« Mais il y aura des frais, beaucoup de frais. »
Les doigts boudinés de Monsieur de Graft chassèrent une mouche invisible.
« Cela m'est égal, » déclara-t-il.
« Quand prendrez-vous contact avec Sonia Balonska ?
Je me présenterai chez elle dans 1 heure. » J'y serai. À votre santé. »
Thomas Burns rapporta fidèlement cette conversation à son jeune associé Bob Leclerc. Ce dernier commenta.
« Ou bien ce Terror est un farceur, ou bien c'est un gangster déterminé. Éliminons la première hypothèse et essayons de justifier nos honoraires. Va tout de suite chez cette Balonska. »
Thomas Burns marqua sa surprise.
« Elle est jolie et c'est moi que tu envoies. »« Oui, parce que tu as du charme, » répliqua Bob. « Je la verrai plus tard. Pour l'instant, je préfère me tapir modestement dans l'ombre.
La célèbre agence Burns n'a qu'une tête, toi.
Verse de bonnes paroles dans le cornet acoustique de la polonaise et renseigne-toi sur la topographie de son appartement.
Les portes et les fenêtres m'intéressent de façon spéciale. Sois homme du monde, mon vieux Tom, et en prenant congé, fais un baise-main sans mouiller le métacarpe de la future victime de Terror. »
En somme, remarqua le mélancolique Thomas Burns, c'est moi qui m'appuie toute la besogne.
Oui, dit Bob, tu m'excuseras. Je suis un peu fatigué cette année.
Et puis tu as touché 10 000 francs.
Tu m'as pris le chèque.
Ah, tu n'oublies aucun détail,
s'exclama Bob.
Sonia reçut Thomas Burns allongé sur un divan où un ouistiti et une tortue lui tenaient compagnie.
Monsieur de Graft était commis à la garde d'un minuscule roquet qui faillit s'étrangler de fureur en apercevant Thomas Burns.
« Cher monsieur, dit Sonia Balonska avec un accent terrible et charmant. « Considérez-moi comme mort déjà. Je serai défunt de peur avant demain soir. » Et elle se renversa pour agoniser à l'aise et avec art sur les coussins du divan. « Soyez rassuré, dit doucement M. de Graft. « Vous ne risquez rien sous l'égide de M. Thomas Burns. »«
Mais il n'a pas de biceps. »
exhala Sonia d'une voix plaintive.
« Dans tous les romans, le policier a une poigne de fer. Celui-ci est atteint d'une anémie déplorable. »
Thomas Burns, vexé, répondit avec dignité malgré qu'il eut la bouche pleine de biscuits.
« Devant le danger, j'acquiers une extraordinaire force nerveuse. Ajoutez-y 2, 3, 4 revolvers !»
cria la Polonaise, avec une impétuosité si soudaine que Thomas Burns avala de travers. Et, retombée, de nouveau mourante,
« Je veux un notaire pour mon testament. Jeff, vous êtes le seul homme que j'aime. Vous serez mon légataire universel. Mais vous répandrez chaque jour des violettes sur mon sépulcre. »
Pour ne plus entendre ces choses déchirantes, Thomas Burns demanda à visiter l'appartement. Les fenêtres étaient inaccessibles de l'extérieur. Une porte à double battant et la porte de service constituaient les seules voies d'accès. Il suffirait de les garder pour empêcher Terror d'exécuter à l'heure fixée son sinistre projet.
« Si vous voulez une centaine d'hommes, dit M. de Graft, n'hésitez pas. 4 suffiront, estima Thomas Burns. » À 6h30 précise, le téléphone sonna. La belle Polonaise poussa un cri perçant et s'abattit en plein sur la tortue qui rentra tête et patte avec une rapidité surprenante.
Tandis que la soubrette noire soignait sa maîtresse, M. de Graft décrocha l'appareil.
« Allô ? » dit-il.
« Oui, c'est ici. »«
De la part de qui ?»«
Ah, vous êtes M. Terror. »«
Eh bien, la réponse est négative. Vous n'aurez pas la rivière de diamants. »«
Vous réitérez votre menace d'assassiner Sonia Balonska ce soir à minuit ?»
Un nouveau cri perçant prouva que l'évanouissement de Sonia ne l'empêchait pas tout à fait d'entendre.
Vous n'assassinerez personne, reprit M. de Graft. Je vous passe le fameux détective Thomas Burns, qui saura vous juguler.
Et il tendit le combiné au fameux détective qui le prit avec consternation.
Allô ?
Fit-il d'une voix faible.
Allô ? C'est vous, Burns ?
Cette familiarité choqua le policier.
Monsieur Thomas Burns, rectifia-t-il, prenez garde. « Je veille. »
Le mystérieux interlocuteur ricana insolemment.
« Vous n'êtes qu'un fantoche, »
dit-il.
« Tout ce que vous pourrez faire, c'est mourir en même temps que la Balonska. À tout à l'heure. »«
Allô ?»
dit Thomas Burns.
« Allô ? Allô ?»
Mais la communication était coupée.
Thomas Burns apostropha M. de Graft.
« Vous n'aviez pas besoin de prononcer mon nom.
L'incognito est une condition essentielle de ma réussite.
Vous avez juré de sauver Sonia ?»
Le lendemain matin, Thomas Burns, rentrant chez lui, exténué, la mine défaite par l'insomnie, trouva dans son propre lit son associé Bob Leclerc qui dormait à poing fermé.
« Ça, c'est violent !»
s'exclama-t-il.
Bob avait le réveil charmant.
Il se dressa sur son séant et sourit à belles dents.
« J'ai couché là pour te voir plus vite, » dit-il.
« Il me tarde de savoir ce qui s'est passé chez la belle Polonaise. » Thomas Burns lança rageusement son chapeau sur le tapis.
« S'il te tarde tellement, tu n'avais qu'à m'accompagner rue de Courcelles. »
Il ramassa son couvre-chef pour enlustrer le feutre avec soin.
« Impossible, » répondit Bob.
« J'avais rendez-vous ailleurs. »«
Mais ne sois pas cruel avec ton petit ami. Que s'est-il passé ?»«
Rien, »
dit Thomas Burns. « Terror n'est pas venu. »«
Non. »«
C'est un dégonflé, »
apprécia Bob. « Je prévoyais sa dérobade. »«
Mais quelle comédie !»
continua Thomas Burns.
« Depuis 8 heures, nous n'avons pas eu une minute de répit. » Sonia a fait des caprices. « Pas tellement. »
Incapable de subir le supplice de l'attente, elle avait pris un somnifère. Vers 11 heures, elle s'est endormie comme un bébé, toute porte ouverte, avec sa ménagerie. Par contre, M. de Graft nous a tarabustés sans répit. À chaque instant, il nous alertait, tantôt aux portes, tantôt aux fenêtres.
« Et pas aux cheminées ?»«
Il n'y en a pas. C'est une maison moderne. » « Alors il doit y avoir un vide d'ordure.
As-tu pensé que le bandit pouvait arriver par là ?»
Thomas Burns le regarda de travers. « J'ai pensé à tout, comme d'habitude. Quand sonna minuit,
l'heure du crime, »
nota Bob avec un trémolo. Nous redoublâmes d'attention. immobile, le Browning braqué, j'étais à l'endroit le plus dangereux derrière la porte palière.
Ah, dit Bob, je vois la scène comme si j'y étais.
Le silence ne fut troublé que par un bref aboiement du roquet. Et ce fut tout jusqu'au jour. Rien à signaler sur le front. Vers 8 heures, Sonia Walonska réclama un beefsteak haché pour son chien. Des noisettes pour son singe. Une feuille de salade pour sa tortue et du cacao pour elle. Enfin, un moment plus tard, Bob Leclerc sauta du lit, chaussa ses mules. « Le reste n'offre aucun intérêt, » dit-il. « Couche-toi, mon héros, j'ai une visite à faire. »«
À qui ?»«
À ta cliente, parbleu. »« Maintenant que tout est fini ?»«
Tu te trompes, vieux Tom, tout n'est pas fini. »
La sonnerie d'entrée tinta à coups précipités. Thomas Burns alla ouvrir, non sans appréhension. M. De Graaf, essoufflé, se précipita dans l'appartement.
« On a volé la rivière de Sonia !»
annonça-t-il.
« Après mon départ ?»
fit le détective étonné.
« À minuit.
Allons donc, nous étions tous là. »
Le gros Hollandais haussa le ton.
« On l'a volé chez moi, au grand hôtel. »
Les diamants étaient donc là.
« Oui, Sonia me les avait confiés pour plus de sécurité. Personne n'était au courant.
Eh bien, c'est réussi !»
apprécia Thomas Burns, qui jugeait maintenant l'aventure cocasse.
« Voilà ce que j'ai trouvé en rentrant. »
C'était un ticket de métro, au dos duquel on avait griffonné 3 mots. « Minuit, merci, terreur. »
M. De Graaf, penaud et contrit, écoutait avec douleur la diatribe de Sonia Walonska.
« Vous êtes un maladroit !»
clamait-elle avec un accent encore plus slave que de coutume.
« Vous auriez dû déposer mon collier à la caisse de votre hôtel. »
Elle se tordait les mains avec un remarquable souci de l'esthétique.
« Ah ! Pourquoi faut-il que ma douleur la plus profonde me vienne du seul homme que j'aurais pu aimer ?»
Cette lamentation passionnée émut M. De Graaf jusqu'aux larmes.
« Écoutez-moi, Sonia. »
Elle secoua ses beaux cheveux roux.
« Je vous ai ouvert mon âme et mon cœur. Je ne peux plus vous écouter.
Au contraire, c'est ma faute si vous avez perdu vos diamants. Mon devoir est de vous en offrir d'autres. J'ai préparé un chèque.
Mon ami, vous abusez de la situation.
Cependant,
elle n'acheva pas car le téléphone l'appelait. Une voix d'homme inconnue, caressante, lui dit
« Si le Graaf s'est montré galant homme, mettez-le à la porte. Il y a 1 heure que j'attends sur le trottoir. À tout de suite. »
Sonia Walonska raccrocha l'appareil avec assez de lenteur pour masquer sa stupeur.
« Où en étais-je »
murmura-t-elle.
« Vous disiez, cependant ? Ah oui, je commençais une confidence.
Une confidence intime. »
Et avec un sourire ensorceleur.
Je la terminerai quand la migraine ne me torturera plus. Non, ami, ne me pressez pas. Et partez confiant. Nul n'échappe à son destin.
Je vous téléphonerai, dit-il.
C'est ça, téléphonez-moi.
M. De Graaf partit sans faire allusion au chèque. Quand le gros homme fut disparu, Sonia jeta un regard sur le papier, sourit et ouvrit une petite cassette en argent damasquiné. M. De Graaf s'engouffra dans sa Rolls-Royce sans remarquer Bob Leclerc qui le croisait d'un pas allègre. Sonia Walonska, après un temps qu'elle employa à vérifier sa beauté, fit une entrée de théâtre. Bob Leclerc salua et se prêta sans embarras à l'examen qu'il subissait. Ce fut la Polonaise qui baissa les yeux.
« Je ne vous connais pas, » dit-elle.
« Je m'appelle Terror, » répondit Bob.
« Sûrement pas.
Mais enfin, monsieur Terror, asseyez-vous. »
« Madame, » dit gravement Bob, « vous paraissez désespérée du vol de votre rivière. Comment savez-vous qu'on m'a volé ? Admettons que cela soit par hasard.
Mais j'espère que M. De Graaf n'a pas été mesquin. »
Il attendit une réponse qui ne vint pas.
« Mais, » reprit-il, « il faudrait que vous récupériez vos diamants pour que le coup soit complètement réussi. »«
Quel coup, monsieur ?
Comment déjà ?
Terror. »« Le coup de la rivière, madame. » »«
Je ne comprends pas. »
Cela se combine comme un tour de prestidigitation.
Voulez-vous que je vous explique ?
Elle se pencha curieusement.
Eh bien, dit Bob, il faut d'abord un très beau bijou.
C'est une mise de fonds importante.
On pourrait se contenter de zircon, mais mieux vaut de vrais diamants qui ne craignent pas l'expertise. Ensuite, il faut en comparse dévoué, respectable.
Votre chauffeur, par exemple.
Enfin, un millionnaire, pas avare. Pas trop subtil et aisément inflammable.
Tels sont les éléments indispensables.
Il s'interrompit car Sonia épluchait une autre noix pour le singe.
Mais mon bavardage vous incommode peut-être ?
dit-il. La jeune femme releva les yeux sur lui. « Vous m'intéressez au contraire beaucoup. »
« Cela me flatte. Voici le mécanisme du truc, si je puis m'exprimer ainsi. Quand le flirt est solidement accroché, on s'écrit une lettre menaçante, signée Terror. La bourse ou la vie. Le flirt s'inquiète et prend des mesures défensives, en se passant de la police officielle. Il y a des gens qui détestent la publicité. »
Quelques instants avant leur hache, votre angoisse s'accentue. Si Terreur ne vous oxy pas, il vous cambriolera sans doute.
Le flirt propose gentiment de planquer.
Pardon, c'est de l'argot. De garder la rivière chez lui. Au Grand Hôtel, en l'occurrence.
Vous me suivez, madame?
Pas à pas, monsieur. Autour de vous, qui dormez tranquillement?
Il s'agit donc de moi, dit Sonia avec une surprise adorable.
Je mets quelques noms pour que mon récit soit plus clair.
Autour de vous, ce groupe de Graft, Thomas Burns et ses séides. Et pendant qu'ils guettent en vain, votre chauffeur s'introduit au Grand Hôtel. Entre dans un palace comme dans un moulin.
Vous avez une imagination de romancier, dit-elle.
Mais vous avez oublié l'épisode qui vous concerne.
Oh, vous l'avez certainement deviné.
Presque, avoua la Polonaise. Mais racontez quand même.
J'ai attendu le retour du chauffeur. J'ai knock-outé ce vénérable quinquagénaire et je me suis emparé de la rivière.
Sonia Walonska médita, puis
« Ce que je ne comprends pas, c'est l'objet de votre visite. Mon intention était de vous restituer votre rivière.
Naturellement, je pensais recevoir en échange un peu d'argent, 100 000 francs par exemple.
Mais je viens d'être victime d'un accident.
Lequel ?
Je vous trouve trop belle, madame.
Alors ?
Bob Leclerc tira négligemment la rivière de sa poche et la lança sur les genoux de Sonia.
« C'est tout, »
dit-il. La rivière glissa sur le tapis. Sonia ne bougea pas.
« Vous êtes un drôle de type, »
dit-elle.
Elle n'avait plus son accent polonais.
C'était évidemment une Française.
« C'est la première fois que pareille aventure m'arrive, » répondit Bob.
« Mon prochain client paiera pour vous. »«
Et vous ne me réclamez rien ?»
questionna la pseudo Sonia.
« Me croyez-vous incapable de désintéressement ?»
Elle le regarda bien en face.
« Maintenant, non.
Connaissez-vous les États-Unis ?
Je n'y suis jamais allé.
Je voudrais m'embarquer la semaine prochaine, pour changer de ciel.
Si personne ne vous retient en France,
c'est très grave, dit Bob.
« Nous verrons bien, »
dit-elle. Bob replongea la main dans sa poche et déploya des papiers multicolores.
« Voici 3 passages pour New York, » dit-il.
Je les ai achetés avant de venir.
Hein, vous aviez prévu
tout.
C'est de la fatuité, monsieur.
Mais pourquoi 3 coupons alors que 2 suffiraient?
Parce que j'emmène mon associé, Thomas Burns.
Vous connaissez sa valeur professionnelle.
Il veillera sur vos diamants pendant le voyage.
Ainsi s'achève Danger de la beauté par René Pujol.